Allô, Raphaël.
Allô, Marie-Claude.
Alors, tu vas nous parler de ce qui se passe du côté de la réforme des services policiers aux États-Unis. Près de 3 semaines après la mort de George Floyd, ben là, c'est une bataille politique autour de ce qu'il faut faire pour soit réformer ou ne pas réformer la police.
Oui, parce que là, les appels, évidemment, se multiplient depuis maintenant plus de 2 semaines pour qu'on fasse quelque chose. Ça va être quoi, ce quelque chose-là? Ben, c'est ça qui reste à déterminer. Mais il commence à y avoir un consensus de plus en plus large comme quoi il y a au moins quelque chose qui doit être fait. Écoute, nouveau sondage de la firme YouGov qui montre que c'est à peu près 85% des Américains qui disent aujourd'hui qu'il y a au moins certains changements qui doivent être faits au niveau du code de conduite ou des codes de conduite des services policiers. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une différence au niveau de l'ampleur des changements qui sont demandés. Et ça, en énorme partie, ça dépend de votre affiliation partisane, si vous êtes un démocrate ou un républicain. Donc, ça ne te surprendra probablement pas d'entendre que les électeurs démocrates sont nettement plus en faveur de changements plus significatifs, plus importants. Mm-hmm. Plus de 40% des électeurs démocrates qui demandent que ce soit non seulement des changements, mais des changements majeurs qui soient effectués, moins de 10% des électeurs républicains. Au final, la situation qu'on a présentement au Congrès, à Washington, c'est qu'on a les deux parties. Tu sais comment c'est rare ces temps-ci d'avoir les deux parties qui planchent sur la même chose? Ben là, tu as, encore une fois, un certain niveau de consensus par rapport à ce qui pourrait être fait. Je te donne un exemple de mesure qui pourrait être changée. On pourrait peut-être mettre en place une interdiction fédérale, formelle, de ce qu'on appelle le chokehold, la prise d'étranglement, si on veut, là. On s'entend que dans la foulée de la saga George Floyd, c'est particulièrement, disons, brûlant comme enjeu, considérant la nature de la mort de M. Floyd. Donc, il y a ça qui est, je te dirais, très sérieusement considéré présentement. Et au-delà de ça, ben, c'est là que ça va devenir peut-être moins évident de s'entendre. Parce que les démocrates à Washington sont déterminés à forcer les officiers fédéraux qui sont en uniforme à porter des caméras personnelles, des caméras sur eux. Les républicains sembleraient beaucoup plus tièdes à cette idée-là. Donc, rendu là, c'est là que ça va justement devenir une vraie bataille politique, savoir jusqu'où on peut obtenir des changements qui non seulement seraient approuvés par les deux chambres du Congrès, donc les deux partis politiques devraient s'entendre, mais qui également obtiendraient la signature d'un certain Donald Trump.
Oui, mais ça, c'est pas réglé encore.
En effet. On s'entend.
Et avec des sondages comme ça. Donc, puis là, les pressions sur les républicains, on leur dit qu'il faut agir, puis de l'autre côté, on leur dit de pas aller trop fort, de pas fesser trop fort dans le top.
Et c'est ça qui va devenir très intéressant, parce que du côté républicain, évidemment, depuis des années, on s'est toujours présenté comme le parti de la loi et l'ordre. Donald Trump, le premier, a joué très, très fort cette carte-là en 2016, l'a joué encore en 2020. Mais là,
C'est ça. Je ne suis pas sûr si tu viens de le dire, mais il parlait aujourd'hui, Trump, là, que la prise d'étranglement, là,
oui.
c'est dans certains cas, c'est bon, là, ça, c'est nécessaire.
En effet. Donc, c'est pas nécessairement acquis.
L'art d'escalier.
Disons que Donald Trump, depuis le début de cette affaire-là, ne cède pas. Je vais le dire de façon très conservatrice.
Très rapidement, je te dirais, je pense t'avoir dit que j'étais devenue une fan finie de Rachel Maddow à MSNBC. Je la trouve extraordinaire. Puis hier soir, écoute, elle est allée assez fort quand même à dire, c'est ça qu'il veut, Donald Trump, qu'on soit fâché, qu'on soit outré. Il se dit même probablement, genre, est-ce qu'ils vont être outrés si je dis ça? Ah ben, je vais le dire, tu sais. T'es comme... Ben,
je dirais que ça expliquerait plusieurs de ses sorties depuis les 5 dernières années, hein, on s'entend.
C'est clair.
Mais donc, il y a ce risque-là du côté républicain d'être vu comme n'étant pas assez sensible à la cause de la réforme policière, des réformes policières. De l'autre côté, ce qui est également intéressant, c'est qu'il y a un risque pour les démocrates d'être vu comme allant trop loin. Donc, en plus du mouvement pour réformer la police, il y a tout cette espèce de mouvement-là dont tu as probablement entendu parler, qui vise à carrément couper le financement à la police, qu'on a appelé « defund the police ». Et ça, là aussi, quand tu regardes les sondages, c'est assez clair, mais dans l'autre sens. Une écrasante majorité d'Américains qui est contre l'idée de couper le financement à la police. Et d'ailleurs, Joe Biden, le candidat présumé là, du Parti démocrate à l'élection présidentielle, est sorti publiquement très clairement, lui aussi, cette semaine, en disant « Je suis pour qu'on réforme la police, mais je ne suis pas pour qu'on abolisse le financement à la police. » Et par le fait même, à toute fin pratique, qu'on abolisse les services policiers. Donc, il y a cette espèce de danse-là que les deux partis politiques doivent se livrer, je te dirais. Et dans le cas démocrate, où ça devient peut-être encore plus complexe, c'est lorsqu'on regarde ce qui se passe dans la ville de Seattle. Je ne sais pas si tu as vu ça un petit peu, Marc-Claude, cette semaine.
Oh oui.
Les scènes qu'on a. Écoute, c'est ahurissant parce que pour ceux qui ont peut-être moins suivi ou moins entendu parler de cette affaire-là, t'as plusieurs pâtés de maison qui sont présentement sous l'emprise, parce que je peux même pas dire la gouverne, c'est pas un gouvernement, là, sous l'emprise de militants qui ont carrément pris le contrôle là, d'une partie du centre-ville de Seattle qu'on appelle Capitol Hill. Eux ont rebaptisé ça Capitol Hill Autonomous Zone, donc CHAZ pour utiliser l'acronyme, Autonomous parce qu'ils se disent autonomes dans leur gestion, leur façon de gérer cette zone-là de quelques pâtés de maison. Donc, plus de police. En fait, il y avait un poste de police qui était forcé d'évacuer et pas de gouvernement. Et là, la question, c'est de savoir qu'est-ce que les autorités vont faire. Est-ce qu'on va les laisser garder le contrôle de cette partie de la ville-là? Si oui, combien de temps? Je sais pas. Mais moment quand même assez surréel. Tu parlais de MSNBC. Je te cite rapidement la mairesse de Seattle hier à CNN qui disait que pour elle, ce qu'on avait, c'était un party de quartier et que si ça continuait comme ça, on aurait peut-être un été de l'amour.
Wow.
Summer of Love.
Ben, elle a aussi bien rétorqué.
Ben, c'est ça. C'est... California Dreaming. Quel bon voilà. choix. Quel bon choix. Oui.
On le doit à GC, notre meilleur metteur en nom. Mais quand on se parle de Summer of Love, on s'entend que c'est à ça qu'on pense. C'est peut-être pas aux images de Seattle présentement.
Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable. Fait que donc, un love-in à Seattle.
Mais Raphaël, elle a quand même bien rétorqué la mairesse de Seattle au tweet de Donald Trump en disant « Reste donc dans ton bunker, toi. Mène-toi pas
oui. Parce que, oui, parce qu'en fait, il est allé dans son bunker. Hein. Il s'en est bien défendu, mais oui, il est allé dans son bunker.
Oui, est-ce que effectivement, tu sais, quand je parle des risques politiques des deux partis, chacun de leur part, Donald Trump peut être allé beaucoup trop loin en disant « Si vous faites pas le ménage, on va rentrer. » Et il a qualifié les manifestants de terroristes. Il y a des risques des deux côtés.
Exactement. Ben, écoute, Raphaël Jacob, merci beaucoup. Je te souhaite un excellent week-end et on se retrouve dans 10 jours pour l'été.
Dans 10 jours, ma chère.
Merci beaucoup. On s'arrête le temps des nouvelles et au retour, on va parler à Yves-François Blanchet de Air Transat qui veut reprendre ses vols le 23 juillet. Merci beaucoup, Philippe Quentin. Je te garderai jusqu'à 7 heures. Moi, mais je pense que tu as quelque chose à faire.
Tu as beaucoup de bons collaborateurs qui s'en viennent.
Oui, absolument. Mais écoute, merci infiniment. Ça a été un plaisir. Un grand plaisir. Et puis, on se retrouve, chers auditeurs, tout de suite après cette pause. Il est 16h57. On écoute ensemble les nouvelles. À tout de suite.